Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Par les temps qui courent, on reçoit un ou une artiste tous les soirs pendant une heure. Ce soir, Julia Lanoë.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux taper, péter, péter.
Ça y est, je suis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc, voilà, ça résume.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Par les temps qui courent,
Marie Richeux avec Julia Lanoë.
Ramasser la peau de leur voix à l'ombre de leurs gestes.
L'immobilité de la pierre est trompeuse car elle contient le très grand mouvement du temps. Le silence des cendres est trompeur car elle contient le chant amoureux des flammes. La chorale d'enfants est trompeuse car ils nous disent les mots crus et les mots sans innocence. Le mot possession est trompeur. Sous l'air d'affirmer ce que nous avons, il peut dévoiler par quoi nous nous laissons faire. La pulsation de votre dernier disque, Julia Lanoë, composé en duo avec le musicien Vitalik et sur le nom de projet Compromat, eh bien moi je l'ai trouvée tout à fait solaire et joyeuse, même quand elle semble avancer en robe sombre. Les paroles y sont majoritairement en allemand et quand le corps ment, c'est peut-être juste pour avancer tranquille dans la nuit. Bonsoir à vous, Julia Lanoë.
Bonsoir.
Bienvenue. Traum und Existenz, c'est le titre de ce disque que vous signez donc sous le nom de Compromat et sur le label Clivage. Il commence comme ça.
Thank you.
gehört euch.
Qui sont ces enfants, Julia Lanoé, qui chantent sur ce premier titre de l'album Possession?
Alors, ils sont nombreux, hein. Ils sont, je pense qu'ils sont 5. J'ai fait une résidence assez longue dans un château qui s'appelle le château de Montlon, en Bourgogne. Et il y avait plein de familles et d'enfants, et ils étaient toujours dans mes pattes. Et donc, je les ai utilisés. Et une fois devant le micro, c'était assez touchant parce qu'ils osaient plus du tout. Ils étaient toujours vraiment en train de me parler, et vraiment devant le micro, il n'y avait plus personne.
Vous leur avez demandé quoi?
Je leur ai demandé de chanter ça. Je leur ai pas fait écrire, ni on n'en a pas vraiment discuté, quoi.
Mais une fois qu'ils l'ont chanté, est-ce qu'ils avaient des choses à dire sur ce qu'ils avaient chanté?
Non, ils ont tous eu un petit pot de fleurs en cadeau pour faire des boutures. Et je sais qu'ils étaient très contents d'entendre le résultat, mais on en reparlera plus tard, je pense.
C'est un titre qui ouvre l'album et qui ouvre l'album par plein de questions adressées à des enfants, mais en fait aussi adressées, je trouve, à nous qui commençons à écouter l'album. Est-ce que c'est un titre que vous avez écrit en premier?
Non, je l'ai écrit au milieu. Donc l'album n'est pas chronologique, il n'est pas rangé chronologiquement. Au début, on y avait pensé, mais ça ne marchait pas vraiment. Et il était au milieu, mais quand en fait, on faisait beaucoup d'allers-retours avec Vitalik. Il venait en Bourgogne souvent, on s'envoyait des choses par le web, on bossait comme ça. Et quand je lui ai fait entendre les enfants, il a refait des arpèges derrière et j'avais vraiment la chair de poule. Je me suis dit, mon Dieu, faut commencer par ce morceau-là, parce que ça me semblait être un morceau très très fort d'entrée de disque.
Mais qu'il y a une sorte de force liée à l'émotion ou liée aussi à ces questions-là que vous lancez en allemand?
Ouais, lié à ces questions où les enfants répondent, ils ont l'air de mieux savoir que nous. Et je pense que c'était un peu tout le disque tourne autour de ça, quoi. C'est un peu toutes ces questions d'existence sans réponse, donc ça envoyait le bon signal.
C'est un disque qui porte ce titre-là, Traum und Existenz, le rêve et l'existence. Ça pourrait être une sorte de décrit du début du siècle, signé Sigmund Freud ou les gens qui l'ont suivi dans l'élaboration, dans l'aventure de la psychanalyse. Est-ce que vous y avez pensé? Ces deux termes-là, c'est vraiment des termes qui sont très connotés quand ils sont mis côte à côte.
Oui, alors je sais qu'il y a un livre qui s'appelle comme ça, que je n'ai pas lu, parce que pour moi c'était autre chose. Mais en fait, j'avais écrit un morceau sur Freud, justement, où un rêve où je rêvais de Freud. Et c'était vraiment très compliqué, mon rêve. Comme souvent, on essaye de raconter ses rêves et c'est vraiment très pénible pour les autres. On se perd dans des détails, etc.
Et ça donnait lieu à une belle chanson?
Oui, ça a donné lieu à Traum und Existenz, où je dis que je suis deux chiens à la fois, où je suis des petites pyramides. Bon, alors ça, c'était un peu le résumé des Previously On. Et on a gardé ce titre-là parce qu'il reflétait bien... Il reflétait bien tout ce qu'on voulait raconter, mais on a dégagé Freud et on a dégagé la psychanalyse quand même.
Vous avez gardé le rêve et l'existence, voilà, qui est pas mal. Ouais,
Je ne porte pas Freud trop dans mon cœur.
Par contre, le rêve et l'existence un peu plus.
Oui, beaucoup plus.
Ça veut dire qu'avec Vitalik, vous avez d'abord dit ce que vous vouliez raconter, puisque c'est ça que vous dites, on voulait raconter des choses. Vous vous êtes dit, qu'est-ce qu'on a envie de raconter?
Alors non, pas du tout. En fait, on était à un moment de nos vies, de notre existence, où... on devait raconter ça, donc ça s'est plus imposé à nous.
Mais vous le deviez conjointement, c'était exactement le même moment presque pour vous deux d'une certaine manière?
Au début, je pense que Vitalik m'a vraiment poussée à écrire et à composer et à faire ce projet. Je sortais d'une période assez compliquée où je voulais plus trop écrire. Et vers le milieu du disque, donc à peu près au moment de Possession, c'est l'inverse un peu qui s'est dessiné. Enfin, moi je le vois comme ça.
Vous avez eu très envie d'écrire d'un seul coup et c'est vous qui engagez le mouvement, quoi.
Ouais, je me suis forcée et puis après j'étais sur une lancée et je pense que j'avais plus envie d'arrêter. Je pense qu'on était pas loin de faire un double album.
Ça ressemble à quoi des moments où on n'a plus envie d'écrire? Ça fait longtemps que vous faites de la musique, que vous écrivez des chansons, que vous composez de la musique, que vous jouez sur scène. C'est un moment agréable d'avoir envie de se taire un peu?
Pas trop, non.
Pas trop?
Ouais. Ça a été un moment où je me suis demandé si j'allais pas vraiment arrêter la musique. Et puis, comme mon amour quand même du son était plus fort, j'ai écouté beaucoup, beaucoup de choses. Je me suis replongée dans l'histoire de la musique. C'est à cette période-là que j'ai fait beaucoup de DJ sets. Et ça m'a... c'est tellement passionnant que bon, ça m'a redonné goût un peu, quoi. De réécouter aussi... Je pense que quand on est dans le milieu de la musique, c'est... on s'essouffle aussi de toujours écouter les mêmes choses, voir les mêmes gens. Et que ça m'a fait du bien de me replonger dans des trucs obscurs, ou dans l'histoire, dans le baroque, dans d'autres choses, quoi.
Ça ressemblait à quoi, sans indiscrétion, les journées de résidence en Bourgogne, dans le château? Vous aviez des enfants dans les pattes? Enfin, je dis château, mais peut-être pas, non?
Si, c'était un château. C'était très agréable. En fait, tous les matins, il y avait des cours de qigong, respiration, etc. Donc, on se levait, on allait tous ensemble. Il y avait beaucoup de résidents, mais il y a aussi beaucoup de gens qui habitent là à l'année. Donc,
Et c'est des gens qui viennent ici pour travailler, qui viennent créer des choses?
C'est beaucoup des circassiens, il y a beaucoup de gens du théâtre aussi. Et c'est en général des résidences courtes, mais moi je suis restée pas loin de 6-7 mois, donc j'avais un tarif spécial.
Vous avez hacké le système de la résidence?
Ouais, voilà.
J'ai donc hacké d'abord les enfants, corps et la respiration.
C'est ça.
Le matin.
Beaucoup de respiration, ensuite, moi je me faisais souvent des balades, beaucoup d'écoute de musique aussi. Et puis j'ai une fenêtre de tir de création qui est assez courte. Mais je suis efficace. Donc,
qui est régulière dans la journée?
Ouais, c'est toujours à peu près vers 17h, 18h. Faut pas que je rate le coche.
Il y a un truc qui est un peu retombé à 17h.
Mais d'abord, il a fallu que je mette tout ça en place, donc c'est assez long. Beaucoup de temps aussi pour bien faire à manger, regarder les choses, les paysages, la vie qui passe, me débarrasser des enfants.
Dehors.
Et puis, vers 17, 18, 19 peut-être, hop, je compose.
Et là, ça ressemble à quoi, une fenêtre de création? Ça veut dire que juste vous vous sentez bien ou juste encombré de quelque chose qu'il faut dire ou mettre sur le papier? Ou ça comment on sait qu'elle s'ouvre?
Moi, comme ça a toujours été à peu près... c'est régulier, quoi.
Il faut être au rendez-vous,
en fait. Voilà, je suis là s'il faut. Ça dépend des fois, quoi. Des fois, c'est plutôt laborieux et des fois, c'est très facile. Il n'y a pas de ça, par contre, c'est le mystère.
Moi, en écoutant le disque plusieurs fois, j'ai été vraiment gagnée par une pulsation très solaire, très, sans jeu de mots pour le nom de votre acolyte, mais très vitale, quoi. Vraiment quelque chose de... c'est pour ça que je pose la question du rythme des journées là-bas, parce que vraiment quelque chose du battement de cœur, quoi qu'il en soit, quoi.
Moi, je suis contente que vous disiez ça parce que souvent on trouve mon écriture assez sombre. Or, moi, je trouve ça plutôt, c'est plutôt solaire aussi, je trouve. Enfin.
Dans tous les projets, vous voulez dire que ce soit Mansfieldia ou Sexy Sushi?
Pour
ou...
ce projet-là, particulièrement, quoi. Parce que je pense que j'ai eu plusieurs phases dans ma vie, mais pour ce projet-là, moi, je voyais ça vraiment comme une description de l'univers, du souffle, un peu de la continuité du cercle infernal de la vie.
Ouais, infernal ou beau aussi, quoi.
Ou beau, de se laisser porter, quoi. Et du coup, je suis souvent pas d'accord quand on dit que c'est triste, parce que je vois ça assez joyeusement.
Moi, j'ai l'impression, par exemple, qu'il y a beaucoup de références à des nuits qui sont claires, des nuits dans lesquelles on voit des espèces de vie comme ça qui traversent, qui avancent. Enfin, je sais pas, c'est l'inverse d'une immobilité, quoi.
Ouais, je suis d'accord. Et puis, je m'étais intéressée beaucoup à Nyx avec Mansfieldia.
C'est vrai.
On avait beaucoup parlé de la nuit. Et là, je pense que j'étais plus dans hypnose. Hein. J'étais plus dans du somnambulisme, une espèce d'état... où il y a parfois des visions précises dans la nuit qui s'opèrent et dont j'ai voulu parler.
Tout à l'heure, vous disiez on a gardé le rêve et l'existence avec Vitalik. Ça veut dire que, par exemple, le rêve en tant que tel a été une nourriture pour l'écriture, mais je veux dire une nourriture consciente, quoi. Vous alliez les chercher, vous les notiez, vos rêves, Julia Lanoé?
Non, j'ai pas fait trop ça. Bon, alors, sauf pour Trauma d'existence, où j'en ai pris une toute petite parcelle, je me suis appuyée de ça, mais en général, je fais pas ça. En général, c'est plus. Je pars plus de ma vie, ou de mes lectures même, ou d'autres choses que de mes rêves.
Il y avait des livres qui vous ont accompagné vraiment pendant ces 6 ou 7 mois de résidence en Bourgogne?
Ouais, beaucoup. Le disque, il est assez inspiré par les pensées orientales, que ce soit chinoise ou japonaise, de Chuang Tzu, de Lao Tzu, de Deshimaru, de Dogen. J'ai beaucoup lu ça et ça a été retranscrit en allemand, bizarrement. Donc ça fait une mixture assez...
Ça fait un sacré trajet, en fait.
Ça fait un grand chemin.
Mais pourquoi pas? On écoute justement Régine Crespin parler de l'allemand.
La langue allemande est riche en rebondissements, en notes appuyées, enfin, choses appuyées ou pas appuyées, avec des descensions et des rebondissements que n'a pas le français. J'étais un peu familiarisé avec ça, avec l'italien aussi, qui est une langue tonique. Enfin. Mais l'allemand m'a vraiment découvert des choses, et même vocalement, je répète, ça m'a apporté, ça m'a fait découvrir des horizons nouveaux pour la voix elle-même, pour les couleurs de la voix. Et j'ai surtout découvert ça quand j'ai commencé à faire des récitals avec des leads... allemand. Ça m'a vraiment ouvert, je répète, des horizons vocaux que je ne soupçonnais pas. Wagner a beaucoup ce qu'on appelle des allitérations. Et c'est des choses qu'on découvre, ce que nous n'avons pas tellement en français, et qui vous propulse la voix et qui motive des expressions vocales qu'on ne peut pas avoir en français. Ça, c'est très important. Et puis, bon, ça a été écrit sur le texte allemand avec les toniques, les temps forts sur des syllabes qui sont des temps forts en allemand. Alors que pas forcément en français, c'est d'ailleurs pourquoi c'est tellement difficile de traduire un opéra, parce qu'il faut que les temps forts tombent sur les temps forts de la langue, et ça c'est pas évident.
Alors c'est Régine Crespin, donc dans une archive où elle évoque la manière dont elle dit « l'allemand m'a découvert ». Et c'est assez beau, comme s'il y avait une sorte de dévoilement à chanter par une autre langue, mais si on fait le trajet de vos lectures, Julia Lanoé, vous lisiez de la pensée chinoise-japonaise, probablement traduite en français.
Oui, tout à fait. Ensuite, par Markovitch, qui je pense est russe.
En tout cas, il traduit énormément le
russe.
Traduit
beaucoup de russe, ouais.
Markovitch. Et alors après, vous faisiez quoi? Vous écriviez en français et j'écrivais... on traduisait pour vous en allemand?
Ouais, j'écrivais en français et on traduisait avec mon ami en allemand. Ouais. Donc le trajet est planétaire. Le trajet est cosmique.
Et est-ce que ça dévoilait quelque chose? Alors pour prendre un chemin inverse que celui de qu'emprunte Régine Crespin avant de parler du chant, mais juste pour parler de l'écriture, le passage d'une langue à une autre, il est jamais sans conséquences. Qu'est-ce qui se passait pour vous de transposer vos textes dans une autre langue?
Ça a été assez intéressant parce qu'il y a eu beaucoup de discussions et donc ça m'a permis de plus préciser ma pensée et mon texte. Bizarrement, si j'écris en français, je jette les choses et je me dis « Ah, c'est parfait comme ça !» Donc je me prends pas trop la tête. Et quand il faut traduire, il faut vraiment être précis et il faut rechercher les mots qui correspondent le mieux. Et ça m'a super intéressée, c'était beaucoup plus juste.
Parce que dans la discussion, on vous disait « Mais là, tu veux dire quoi exactement?
Voilà.
Est-ce que c'est ça ou cette nuance-là »
Exactement, ouais. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment bien. Et puis, c'est génial ce qu'elle raconte, Régine Crespin. Parce que c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai dû chanter en allemand, sans vraiment connaître cette langue, j'ai beaucoup écouté Neubauten, où j'ai beaucoup écouté d'allemand, mais je savais pas placer les accents, etc. Et j'ai dû changer ma manière de chanter et redécouvrir un nouvel instrument. Ça a été super.
Moi, j'ai l'impression, par exemple, on parlait beaucoup de souffle, de qigong, d'exercices comme ça, de placement du corps, de placement des centres. J'avais l'impression de découvrir une voix beaucoup plus, pas du tout en force. Ouais. En allemand, hyper respiré, quoi.
J'ai pas voulu du tout faire des... Enfin, il y a quand même des mélodies, j'aime beaucoup les mélodies, mais elles sont très... Je me suis limitée au maximum pour essayer de faire des mélodies... assez un peu comme on joue aux fléchettes, quoi. Hop, à ce moment-là c'est nécessaire, mais après il fallait revenir à quelque chose de très simple, en fait. Je voulais que ce soit épuré, en fait,
assez proche de la voix parlée parfois.
Ouais, complètement, ouais.
Et quand vous dites un nouvel instrument, c'est votre voix?
Ouais, parce que le changer de langue, c'est ça change tout, quoi.
Et ça change quoi, par exemple, physiquement?
Les accents toniques sont pas du tout au même endroit et du coup moi toutes les ritournelles que j'utilise en français où je suis vraiment habituée et je me rends plus compte de ce que je fais. Là tout d'un coup, il fallait que je retravaille parce que ça pouvait plus marcher de la même manière
dans la composition, vous voulez dire?
Ouais, dans la composition des mélodies justement. Donc j'ai retravaillé ça et ça m'a permis de me surprendre et c'était bienvenu. Je m'agaçais un peu, je crois.
Ouais. Ça faisait partie de ce que vous disiez tout à l'heure, d'avoir envie de vous taire. Il y avait une forme de lassitude de vous-même.
Ouais. De toujours faire les mêmes choses, d'être toujours dans les mêmes travers, de toujours raconter les mêmes trucs.
Comment on se déjoue alors? En se taisant peut-être un peu.
Ouais, sûrement, en se taisant, en écoutant les autres. Et puis, tout d'un coup, ça devient nécessaire de redire, mais il a fallu me taire un peu longtemps.
Et du coup, vous diriez que vous avez dit d'autres choses ?
Je pense. Enfin, j'ai l'impression. Ça, c'est plus à vous de me dire.
Mais moi, j'ai l'impression que vous avez dit d'autres choses, ouais.
Parce que dans Sexy Sushi, j'ai quand même toujours des accès, j'ai toujours fait beaucoup d'ironie. Donc, d'humour noir, de poésie mal placée. Et dans Mansfield, je pense que j'étais beaucoup plus écorchée. Donc là, c'est quelque chose de... Ouais, c'est encore une nouvelle facette. Une nouvelle vie.
Quelle impatience ça vous fait de revenir à Paris chanter ?
Bon, c'est affolant.
Vous rentrez chez vous ?
Bah justement. Les gens ne sont jamais si sévères qu'à l'intérieur de votre propre maison.
Vous avez un peu peur ?
J'ai pas un peu peur, j'ai complètement morte de peur. Je suis d'autant plus morte de peur que c'est toujours une histoire entre eux et moi, que c'est une histoire d'amour. Ils m'ont mise au monde et j'ai essayé de me débrouiller comme j'ai pu. Alors ils sont là et puis ils me regardent et disent « Tiens, qu'est-ce qu'elle va faire cette fois-ci ? Qu'est-ce qui va se passer ?» Or, il n'y a quand même que, je sais pas, quelques mois que j'ai de nouveau chanté. Et je reviens avec de très, très, très nouvelles chansons qu'ils n'ont jamais entendues encore. Et puis j'espère qu'ils vont les aimer. C'est toujours la même histoire. Est-ce que ça va leur plaire? Est-ce que ça va lui plaire? Est-ce qu'il va m'aimer? Ou est-ce qu'elle va m'aimer? On ne sait jamais si le public, c'est masculin ou féminin. En tout cas, c'est presque toujours une seule personne qu'il faut absolument séduire dans un minimum de temps, à savoir 45 minutes ou une heure ou... au meilleur ou au pire.
Et même moins, c'est les trois premières minutes.
Exactement, et on n'a pas le temps ni de leur envoyer de bonbons, ni de flirter, ni de leur envoyer de fleurs, ni d'être coquette. On arrive un petit peu désarmé.
France Culture, par les temps qui courent, Marie Richeux avec Julia Lanoé.
Dass ich unbeweglich aussehe, Furtbach, Wildbach, Bäche von meinem Tränen. Niemand hört es, als ich schreie. Niemand hört es, als ich schreie. Es, als ich schreie.
C'est Niemand de votre disque avec Compromat, Julia Lanoé. Et juste avant, on entendait Juliette Gréco dans une archive de 1954 dire de manière très mignonne qu'elle était complètement affolée à l'idée de nouveau jouer chez elle avec des toutes nouvelles chansons. Et je me suis demandé à quoi ressemblait ce premier concert avec Compromat où il fallait jouer d'un coup toutes ces nouvelles chansons et reparler, puisqu'on a beaucoup dit jusqu'à maintenant que c'était un moment où de nouveau vous disiez des choses.
Ah, c'était assez intense. On a décidé de faire ce premier concert à Péripate, qui est un lieu quand même assez atypique.
On peut le décrire un petit peu dans le 19e arrondissement à Paris?
Ouais. C'est un des pylônes du périphérique, qui servait de bâtiment où entreposait des, EDF entreposait des machines, je pense, qui a été désaffecté et puis squatté et maintenant toléré, on va dire. Donc il se passe parfois des fêtes là-dedans, qui n'ont ni heure de début, ni heure de fin, et c'est assez libre. On peut rester coincé là tout le week-end, on va dire. Et on a voulu aller dans ce lieu parce qu'on trouvait que ça nous ressemblait bien. Après, c'était pas parfait parce que ce lieu a justement pas toujours le son qu'il faudrait, ou voilà, il y a eu des problèmes techniques, mais c'était à l'image de Compromat.
Et c'était avec la même la forme de track que décrivait Juliette Gréco?
Alors, j'étais assez contente, moi, de jouer. Et j'ai toujours un peu peur, effectivement, plus les gens sont proches, c'est-à-dire plus c'est les amis, la famille, plus j'ai peur. Mais bizarrement, là, j'avais très envie et j'étais pas tant effrayée que ça. Donc, j'étais plutôt impatiente, je crois.
Et ça donne quoi de commencer un concert impatiente?
Je trépignais. Je trépignais et puis je trouvais l'endroit magnifique, donc j'étais moi-même assez un peu dans mon trip, quoi. Il y a un plafond assez superbe avec des carrés bétonnés, et c'est les lumières qu'on a fait pour le show, c'est assez c'est que des lasers, des strobes, c'est complètement hypnotique. Donc j'étais dans cet état-là.
Avec plein de couleurs ou avec des choix très minimaux et radicaux?
Évidemment, radical. Donc y a pas. Moi, je voulais qu'il n'y ait pas de couleurs du tout, mais...
C'est-à-dire que du blanc, que du flash
blanc?
Ouais,
mais Pascal Vitalik m'a convaincu qu'on pouvait en mettre une ou deux. Donc on est sur deux couleurs, là.
C'est-à-dire?
Il y a du blanc, du rouge et du vert, je crois. Ouais. J'ai pas pu être si radical que j'aurais aimé.
Il y a quelque chose d'assez important quand on écoute ce morceau-là, Niemand. C'est vraiment quelque chose qui avance. Et il se trouve que dans le clip qui a été réalisé par Mandico, il y a une voiture. Mm-hmm. Alors, il lui arrive des choses, mais en tout cas, ça roule, quoi. Ça avance. Et il y a vraiment, il suit, à mon sens, une des énergies très fortes de ce morceau-là. Comment s'est fait la rencontre avec ce réalisateur?
Alors avec Bertrand Mandico, ça s'est fait par le biais de Vim à la Ponce, qui est une amie et qui jouait dans Les Garçons Sauvages. Donc j'ai été voir le film et j'ai vraiment adoré la proposition esthétique de Bertrand Mandico.
Donc on le rappelle, c'était un film en noir et blanc, mm-hmm. Une île très particulière. D'ailleurs, c'est intéressant que ce soit sur ce morceau-là où c'est très c'est minéral, vous êtes une montagne, vous êtes aussi des ruisseaux, un volcan. Et donc sur cette île-là, la nature avait de véritables pouvoirs, quoi, plein de potentialités, notamment des potentialités de métamorphose. Mm-hmm. Très beau film, quoi.
Très beau film. Et l'image qu'il a choisie aussi, qui est en film.
Ouais, pellicule.
Elle impose aussi un rythme et un style qu'on voit plus trop, quoi. Donc moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, c'est exactement ce qu'il nous faut. Et Bertrand a bien voulu bosser sur Niemand. Et on l'a laissé vraiment faire ce qu'il voulait parce que ça, je pense qu'après, ça nous appartient plus, quoi. Donc c'est une collaboration entre nous tous. Et c'est vrai que le personnage veut aller toujours plus vite, toujours plus loin, toujours plus fort. Et il est porté comme ça dans cette machine de vie infernale. Voilà, faut avancer.
Ça induit ça, hein, cette musique que vous avez composée avec Vitalik, elle induit quelque chose qui est de l'ordre du mouvement. Alors il est parfois ça peut être une fuite, ça peut être aussi quelque chose, je le disais tout à l'heure, de très vital, de très vivant. Mais disons que c'est presque plus le cas avec des musiques de machine, on va en parler, que En tout cas, c'est, il me semble que ça l'induit plus automatiquement qu'avec des instruments acoustiques. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Il y a un côté très trans. Et puis, la répétition que moi, j'ai toujours adoré et toujours fait dans tous mes projets. C'est vrai qu'avec... on change vraiment pas de rythme, c'est-à-dire qu'on est vraiment porté par un petit sample ou une petite mélodie qui nous amène et qui nous transporte, quoi. Et moi, je trouvais ça assez génial de travailler avec Vitalik pour ça.
Peut-être qu'il faut dire un petit peu son parcours musical à lui et l'endroit où le point de rencontre avec vous, Julien Lanoë.
Alors, moi, je l'ai rencontré musicalement parce que j'écoutais Dima, donc c'était son premier projet. Plus techno, plus sombre que Vitalik, où il a rajouté un peu de disco. J'ai toujours suivi aussi Vitalik, hein, ce qu'il faisait. On s'est rencontrés en 2012 parce qu'il m'avait contacté pour faire un morceau sur son disque, qui s'appelle « La mort sur le dance floor », et qui était très... qui ressemble pas trop à Compromat, bizarrement.
Ah non, c'est très très différent, moi, je trouve.
C'était très clash, très rock, très assez violent même. Et ça correspondait bien à son album Ravage, c'est ce qu'on voulait à ce moment-là. Et puis ensuite, quand on a décidé de travailler ensemble, on s'est beaucoup plus dirigé vers ce qu'on aimait nous, c'est-à-dire les choses dont on parlait, des mélodies mécaniques qui sont proches de l'EBM, de l'Electronic Body Music, un mouvement belge, ou de... des liaisons dangereuses, de DAF, des choses qui sont à la croisée, on va dire, du punk, du rock alternatif que moi j'écoutais, les Berruriers Noirs, etc., et de l'électronique. Donc très répétitif, qui mettent en transe, mais qui sont aussi assez, assez rugueux.
Et ça, l'EBM, pour vous, ça, c'est... Alors, sans dire que ce projet-là, Compromat, il va se coller à l'EBM, parce qu'il a une singularité qui, moi, je trouve, prend quand même un peu ses libertés par rapport à cette musique-là. Mais c'est quelque chose qui a toujours été, vous, dans ce que vous écoutiez, dans ce que lui, il écoutait. Enfin, ça a nourri la musique au même titre que tout le reste.
Oui, c'est quand même c'est quand même là où on se rencontre, sur cette musique. Mais aujourd'hui, ce serait un peu... Ce serait un peu débile de dire qu'on continue à faire de l'EBM, parce que je pense que c'est une histoire, quoi. Donc on continue le chemin de cette musique. C'est un point de rencontre, mais évidemment, on le fait à la sauce actuelle, quoi.
Je crois qu'il y a une chose à dire vis-à-vis de la musique électronique et de la techno, c'est qu'on a quand même cassé pas mal de barrières. C'est-à-dire qu'il y a, il y a une dizaine d'années, il fallait... Pour être musicien, il fallait pratiquement tout le temps avoir une notion du solfège, une notion de savoir jouer de la guitare, savoir jouer de l'orgue, savoir jouer du piano pour pouvoir faire un concert. Aujourd'hui, grâce aux machines, des gens qui ne sont pas musiciens mais qui ont l'oreille musicale peuvent s'exprimer beaucoup plus facilement. Donc déjà, ça fait une barrière de cassé. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'expérimentation, avec l'édition du son, on peut aller beaucoup plus loin et on peut mélanger des choses qui n'étaient pas forcément mélangeables il y a 10 ans. Donc on a poussé les barrières de la musique normale, entre guillemets, pour s'ouvrir un tout nouveau, je sais pas, une toute nouvelle piste, une toute nouvelle route. Donc ça, c'est déjà ça a été un pas en avant, et c'est grâce à la musique expérimentale puis à la techno que les choses ont avancé.
1999, ces choses qui avancent, Laurent Garnier dans Les Nuits de France Culture, qui dit que finalement... La machine, la production de la musique techno ou la musique électronique a permis à plus de gens de faire de la musique parce que a enlevé une nécessité de connaissance, entre guillemets, classique de la musique. Et je voulais qu'on en vienne à parler de la fabrication un peu concrète. Quand on parlait tout à l'heure de composition vers 17-18 heures en château de Bourgogne, Julia Lanoë, ça veut dire sur quelle machine, ça veut dire avec quelle connaissance de ces machines-là, quelle maîtrise et peut-être quelle connaissance engrangée dans le dialogue avec Vitalik. Comment ça s'est passé?
Alors déjà, j'avais du mal à écouter ce que disait Laurent Garnier parce que j'écoutais derrière Crispy Bacon qui me rend dingue.
La musique donc.
Ouais. Et je suis pas tout à fait d'accord avec lui, même pas du tout, je crois.
Super.
Ouais. Par contre, je trouve que...
Alors, sur quel point?
Je suis pas du tout d'accord sur le fait que... Moi, j'ai pas de notion de solfège. Mais je pense qu'il y a aussi une musique du chant, une musique qui est beaucoup plus organique et qui est pas du tout... qui a pas besoin de connaissances, qui nécessite pas de connaissances. Et c'est là où je trouve que c'est intéressant avec ma rencontre avec Carla Palane dans Mens Sultia, parce que elle vient d'un univers très classique, classique et baroque, et on arrive quand même à correspondre. Mais moi, j'ai l'impression que je chante comme ça, quoi. Enfin, qu'il n'y a pas besoin. Personne ne m'a obligé à apprendre les notes pour faire ce que je voulais. Même, j'ai fait de la guitare, du piano, de la batterie. J'ai un peu touché à tout, sans que ce soit électronique pour.
C'est ça, c'est-à-dire que c'est pas l'électronique qui vous a ouvert la possibilité de composer de la musique autrement. Non. C'est une liberté que vous aviez déjà trouvée par d'autres chemins, avec d'autres instruments, ouais. Des instruments acoustiques.
Ouais. Et du coup, j'ai continué, moi, ce trajet avec les instruments, les synthés analogiques ou les l'ordinateur. J'ai continué ce process que j'avais
déjà. En essayant,
déjà,
quoi.
Ou en essayant, ouais. En m'amusant ou en ayant envie de faire des choses, quoi, de créer des sons. Mais c'est vrai que j'ai pas. Je trouve pas que ça ouvre plus qu'autre chose, quoi.
Et le dialogue avec Vitalik, qui avait peut-être autre chose comme rapport avec ces machines-là, ça s'est passé comment ? Déjà aussi, comment on compose un album à deux quand on n'est pas côte à côte ? Parce que vous disiez tout à l'heure que vous correspondiez, donc on imagine que Vitalik n'était pas pendant 6 mois en Bourgogne dans vos pattes avec les enfants.
Bah, il était pas mal là, on s'est beaucoup vu quand même, on s'est beaucoup vu et en Bourgogne et à Paris. Mais la composition, elle était assez fluide en fait. C'est-à-dire que moi, je proposais des petites choses, il avançait dessus, et puis hop, je terminais. Enfin, on a été très rapide dans, ou c'était l'inverse, mais je veux dire très poreux et très rapide. C'est-à-dire que lui, c'est lui qui a proposé que je chante en allemand, et moi, j'ai composé certains morceaux. Enfin, il n'y a pas du tout de répartition du travail binaire, quoi.
Et concrètement, c'est-à-dire que vous receviez des fichiers, vous les écoutiez, vous
travailliez
dessus.
Voilà, ouais. Je retransforme tout, je lui renvoie, il gueule. Il retransforme tout à son tour, je les reçois, je gueule.
Vous lui renvoyez.
Je lui renvoie. On a essayé de pas trop s'embourber, parce que ça peut être vite ça aussi, quoi. Justement, moi, je trouve que l'électronique, ça peut vite être, il y a trop de possibles, quoi.
Ça peut être infini, quoi,
c'est
comme
infini,
travail.
C'est infini, ouais. Et c'est pour ça que j'aime bien le chant, parce que je suis limitée quelque part.
Dans quel sens ? Parce qu'il y a plein de gens qui diraient le chant, finalement, c'est infini aussi. C'est un instrument qui a une possibilité extrêmement vaste.
C'est vrai, mais pas ma voix. Peut-être des chanteuses plus fortes. Moi, je suis limitée par mon instrument. Et du coup, ça me va bien. Et ce que je voulais dire par rapport à l'électronique, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de musiciens qui se perdent là-dedans. Tout d'un coup, le monde est possible et tous les styles sont possibles et tout est envisageable. Et ça devient vite une tannée, quoi.
Et ça veut dire aussi que, au milieu de cet océan de possibilités, il faut avoir une idée assez claire de ce qu'on cherche, du désir de son, de là où on a envie d'être. Puisque si, en appuyant sur un bouton et en touchant 4 autres, sans caricaturer, mais en gros, on peut atteindre des textures multiples, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut se dire, bah non, c'est là qu'on a envie d'être, ou le son qu'on promette, ce sera ça, par exemple. Et ça a été vite trouvé, Julia Lanoë.
Ça a été vite trouvé grâce à nos goûts très certains, mais aussi grâce au savoir de Vitalik, où il entend des choses très précises, où il m'a vraiment aidé à me dire, ah voilà, il y a des différences entre certains sons qui sont très notables, où je faisais pas forcément la différence. Ça, c'était très efficace. Quoi.
Donc c'est Traum, existence und exigence, quoi. Grande exigence du son. Laurent Garnier, qu'on entendait dans une archive de 1999, c'est-à-dire il y a 20 ans, c'est aussi une grande figure du DJ set. Juste avant de commencer l'émission, vous disiez un jour, on a entendu Laurent Garnier dire qu'il ne ferait plus de DJ parce que c'était trop fatigant et en fait, il en fait encore. Vous disiez que pendant cette période-là où il y avait moins d'écriture, moins de composition pour vous, Julia Lanoë, vous avez aussi mixé. C'est quoi comme rapport à la musique, de jouer la musique des autres pour que les autres dansent et de ne pas chanter, de ne pas jouer sa propre musique ? Qu'est-ce que ça déplace ?
C'était assez passionnant. On dit quand on fait des DJ sets qu'il faut diguer, donc toute la semaine on écoute beaucoup de choses pour savoir quoi jouer le week-end.
Creuser, fouiller,
ouais,
chercher.
Il faut être assez curieux. Et ça fait du bien aussi de... Alors moi, je trouve qu'il y a vraiment ce truc de... genre, on encense beaucoup les producteurs, les musiciens, les chanteurs, les chanteuses, et on dénigre un peu, en fait, les gens qui mixent. Aujourd'hui, c'est un peu le... On joue ça un peu comme ça. Alors, je trouve ça assez passionnant, et les gens qui mixent très très bien, c'est...
Ah oui, c'est fou.
C'est fou, ouais.
Et c'est surtout un très grand cadeau pour ceux qui sont là et qui dansent, en fait.
Ouais, parce que, en fait, ils vont rechercher ce qui va aller le mieux ensemble dans un style précis. Encore une fois, faut avoir une optique et un but, parce que sinon, ça peut vite être n'importe quoi, mais...
Ça veut dire que ça se préécrit, un DJ set, par exemple? C'est-à-dire que tout en restant, évidemment, poreux à ce qui se passe, ouais. Mais... On y va avec des petites intentions.
Oui, il faut une grosse intention, moi, je trouve. Il faut vraiment être pas se perdre, parce que c'est encore plus facile d'aller chercher un peu tout et n'importe quoi, hop, d'égarer le dance floor. Mais je trouve que c'est un exercice hyper intéressant et que ça remet un petit peu aussi à sa place, quoi.
C'est-à-dire?
Eh ben, que tout a été déjà proposé en musique, donc bon, on a sa place, mais pas tant que ça, quoi.
Vous avez joué dans cette période-là des choses anciennes?
Ouais, puis je me suis pas cantonnée à jouer que de la techno, de l'acide, ou j'ai joué beaucoup de choses variées, quoi. Des chants de tribus anciennes, juste des voix, de la musique du drone. C'est très varié, quoi. À un moment aussi, je mixais beaucoup Purcell au milieu pour que les gens fassent des gavottes. C'est intéressant parce que c'est quand même c'est le même principe, hein, au final, je trouve. La bourrée et la techno, c'est same, hein, quand même.
On n'est pas très loin, enfin, ouais. En termes en tout cas d'engagement du corps et de la transe dont vous parliez tout à l'heure. Si une bourrée est bien dansée, normalement, voilà. Ça tourne aussi, quoi. Dans l'archive de 1954, tout à l'heure, Juliette Gréco, elle disait ce public dont on ne sait pas trop s'il est masculin ou féminin, une sorte de personne à séduire en 3 minutes ou 45 sans pouvoir leur envoyer des bonbons ou flirter. Déjà, est-ce que c'est un mot que vous utiliseriez, la question de la séduction, que ce soit pour DJ set ou pour un concert? Et d'autre part, ça se passe comment? Vous voyez ça comme une multitude d'individus ou comme Juliette Gréco, une sorte de... masse comme ça, public, ouais. Est un ou une.
Je vois ça comme Juliette Gréco, comme une masse, un peu comme dans un dessin animé japonais où on verrait une grosse masse fluide, noire, se mouvoir lentement.
Princesse Mononoke.
Ouais, voilà, je vois un peu ça comme ça. Et oui, il faut le séduire, parce que sinon on ne monterait pas sur scène.
Mais c'est de cet ordre-là.
Ouais, le séduire, lui faire plaisir aussi, et c'est parce que le public va être heureux qu'on va nous-mêmes être heureux et satisfaits, donc c'est quand même une mission.
Et donc ça tourne, il y a une grande porosité entre ce qui se passe sur scène, ce qui se passe dans la fosse,
ouais.
Vous récupérez de l'énergie joyeuse, quoi, ouais. S'il y a de la joie.
Ouais, faut pas déconner avec ça, quoi. On peut pas non plus être là dans sa tête, c'est pas vrai. On monte pas sur scène pour faire son truc perso sans s'occuper du reste du monde.
Comment
c'est un dialogue.
Ouais, justement. Et comment ça se passe les moments où justement ça déconne?
Ah, c'est l'angoisse.
Ça vous est déjà arrivé de sentir que il y avait quelque chose qui était pas bien réglé et les mauvais réglages faisaient que...
Oui, par moment, mais c'est justement tout l'attrait de la scène, c'est que ce moment-là, il doit être le plus court possible.
Tout n'est pas fichu.
Ouais, tout n'est pas fichu et qu'il faut vite se reprendre parce que sinon, il faut changer de boulot. Il faut pas se laisser, aller à la panique, quoi.
Elle peut arriver vite.
Ah ouais, elle peut arriver vite. Par exemple, moi, mes plus grands moments de panique, c'est quand je retrouve plus les paroles.
Ah ouais, classique en fait.
Ouais. Et avec Mansfield Tia, comme il y a vraiment pas beaucoup de musique, ça peut être des fois des tout petits pids de quelques notes de piano. Bon, s'il y a plus les paroles, pop 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 pop. Mais bon, en général, j'essaie de m'en amuser puis de faire autre chose.
Et à l'inverse, quand les réglages sont vraiment merveilleux et que le concert il plus que roule.
Il plus que roule.
Ouais, plus que roule. Ça se passe comment?
Bah c'est l'extase. C'est aussi c'est ce qu'on vient chercher quand on fait de la musique, je crois.
Et que vous continuez de chercher encore Julia Lanoë, quand on disait tout à l'heure ces moments de flottement où il y a peut-être moins de musique dans votre vie ou moins de musique performée. Revenir à la scène et au concert, c'est continuer de chercher ça.
Ouais, c'est continuer de chercher ça, ouais.
Ça veut dire que c'est toujours aussi bon ou ça veut dire qu'on peut le chercher de manière très différente?
Ça veut dire que c'est une recherche éternelle, que donc on ne sera jamais satisfait et qu'il faut toujours continuer à chercher, quoi.
Ce qui nous pousse à la nuit, malgré justement ce qu'elle peut représenter par ailleurs d'angoissant ou de dangereux, ce qui nous pousse à aller malgré tout à la nuit, c'est le fait que nous pouvons y voir sans être vus, sans être reconnus. Et cette absence de témoins, ce qui ne veut pas d'ailleurs dire solitude, ce qui veut dire absence de jugement moral ou absence, d'où le brigand d'ailleurs, absence de possibilité de témoigner de ce que nous voyons parce que nous ne sommes pas sûrs de l'avoir vu, hein, d'où le caractère équivoque des témoignages nocturnes, me paraît être l'une des clés de l'attirance pour la nuit et en particulier de ces variations ou de ces altérations nocturnes. Dans la nuit, on y voit moins bien, certes, mais d'autres sens sont requis. Par exemple, les sons prennent une dimension dramatique, l'ouïe prend une importance puisqu'elle vient en quelque sorte en renfort des yeux qui eux ne voient pas aussi bien. Et donc il y a une altération parce que nous ne sommes plus, dans un premier temps du moins, nous ne sommes plus simplement dépendants de ce que nous voyons, mais aussi de ce que nous entendons, de ce que nous touchons. Et la nuit, je dirais, elle transforme le corps en immense machine à interpréter. Hein, on le voit bien, un craquement de bois ou d'un meuble une nuit peut provoquer de la terreur. Le toucher, on peut aussi toucher une substance ou une matière, tout d'un coup on pense qu'elle est inerte et on se rend compte en la touchant qu'elle est vivante, ce qui peut d'ailleurs aussi créer de l'effroi. Et de ce point de vue-là, je dirais que la première chose que la nuit nous fait, c'est qu'elle nous fait animal interprétant, elle nous transforme en quelque sorte, qu'on le veuille ou non, en machine à essayer de comprendre ce que nous ne voyons pas et que nous essayons simplement de deviner.
Le ciel est noir, mon ami, mais j'y vois clair et la pluie.
Der Regen wäscht uns von allen Sünden.
La vie est flamme, mon amour, et le vent souffle. Chaque jour,
der Wind bläst, uns daran zu erinnern, dass wir uns lieben.
Les nuits sont longues, mon amante, comme une ivresse obsédante.
Diese Nächte sind ein paar Augenblicke der Ewigkeit. Uns daran zu erinnern, dass wir uns lieben. De mon âme.
Daran zu erinnern, dass wir uns lieben.
C'est une autre chanson tirée de votre album Julia Lanoé, composée avec Vitalik sous le nom de projet Compromat. Traum Existence, ici c'est De mon âme à ton âme, et elle fait suite à une archive de Michael Fossel au micro d'Adèle Van Redd dans Les chemins de la connaissance en 2017 sur France Culture, qui parlait de son propre livre écrit sur la nuit et qui décrivait la nuit comme un agent de transformation, nous rendant animal interprétant tout ce qu'on touche, toutes les matières, tout ce qu'on voit. Finalement, on devient une espèce de machine à fabriquer des interprétations. Je trouve ça assez beau.
Oui, moi aussi, j'ai bien aimé ce qu'il racontait.
C'est pas la première fois que la nuit est présente, finalement. Elle était, on en parlait tout à l'heure, présente chez Mansfield Tia, elle est présente d'une autre manière chez Sexy Sushi. Et là, je trouve qu'elle est présente d'une encore nouvelle manière dans Compromat. Vous diriez comment ?
Ouais, je dirais que ce qui a changé, c'est que je suis toujours un oiseau de nuit, mais je suis aussi devenue un oiseau de jour. Donc, il y a plus de...
Contraste, déjà.
Il y a plus de contraste, ouais. C'est que j'ai peut-être cessé d'être juste effrayée par la nuit et j'arrive peut-être enfin à m'en accommoder.
Parce que être un oiseau de nuit, c'était en fait se battre contre la frayeur de la nuit.
Ouais. Mais de pas, enfin, j'ai toujours quand même vécu la nuit plus, hein, donc. Mais aujourd'hui, j'arrive à plus, c'est ça, combattre la nuit.
Et du coup, à dormir ?
Peut-être. Je vais peut-être enfin trouver le sommeil.
C'est marrant, j'avais jamais imaginé les choses comme ça. En effet, ouais. Être dehors la nuit, c'est une manière de faire de la
pas
nuit,
dormir,
pas
hein.
Nuit, quoi.
Ouais, de pas dormir. Ouais.
C'est une chanson d'amour, de mon âme à ton âme. Clairement, où les nuits, elles sont aussi des nuits amoureuses, des nuits claires aussi de cette vision-là, d'une vision aimante, je trouve. Mm-hmm. Et c'est une chanson qui, d'un seul coup, rapatrie le français.
Oui, ouais. Pour les chansons d'amour, peut-être que c'était plus fort que moi. Non, puis c'était aussi le moyen d'écrire avec Adèle, qui, elle, parle allemand, donc c'était...
Ah oui, d'où la voix en allemand, beaucoup, voilà. Presque plus assurée d'une certaine manière
c'est
que ça. La vôtre.
C'est elle qui maîtrise mieux cette langue. Donc ça me paraissait logique, moi, de chanter en français. J'aurais été peut-être mal à l'aise de chanter en allemand à côté d'Adèle. Ouais.
Ah oui, d'accord. Mais de chanter l'amour en allemand ?
Non, ça non. Mais pour cette chanson, ça me paraissait plus judicieux qu'elle me réponde en allemand. Et que moi, je reprenne mes bonnes vieilles mélodies françaises.
Et aussi votre façon de chanter un tout petit peu plus aigu,
ouais.
À un autre endroit.
Oui, enfin, on l'entend bien. Ouais. Hein. On entend bien que c'est pas le même instrument. Ouais. Mm.
C'est vraiment un geste absolument romantique, quoi.
Ça nous tenait à cœur d'écrire une chanson comme ça. Je sais pas.
Elle
si
a été
c'est...
écrite à deux, vraiment.
Ouais.
Avec Vitalik ou avec Adèle Haenel ?
Avec, bah, elle a été écrite à trois.
À trois, alors.
Ouais, on est un trouple. Avec Adèle, on a beaucoup planché sur les paroles ensemble. Et puis, avec Vitalik, j'ai planché sur la musique. Donc, voilà. Et puis, je pense que Vitalik et Adèle, on s'est pas mal vus quand on était en Bourgogne, etc. Et c'était aussi du souhait de Vitalik d'écrire une chanson d'amour. Voilà.
Vous vous êtes dit, il faut qu'on fasse une super belle chanson d'amour.
Ouais, c'est bien de faire ça. C'est chic. Je sais pas si c'est trop à la mode, mais en tout cas, je trouvais ça chic.
Les chansons d'amour, c'est toujours à la mode,
c'est
non ?
C'est ça, ouais.
Non, c'est toujours à la mode.
Ça fait plaisir.
Quand elles sont réussies, c'est toujours à la mode. Ce disque qui s'appelle Traum und Existence, il va être joué un petit peu partout, en live, quand les festivals vont reprendre. Partout, ça veut dire où, Julia Lanoé ?
Alors pour l'instant, c'est vraiment bien partout, donc je suis contente. Beaucoup en France, évidemment aussi, beaucoup en Allemagne. Pas de surprise.
Ben non, si, ça aurait pu être accueilli différemment. Ouais. Non, il y a eu un bon accueil en Allemagne.
J'ai l'impression que ça marche bien, ouais. Et on va aller aussi un peu en Espagne, au Canada, en Belgique. J'espère qu'on va aller en Chine, parce que...
C'est la joie quand même de mettre du temps à faire un nouveau disque et de le voir accueilli de cette manière-là.
Ouais, c'est super. C'est toujours un bonheur. Et bon, il y a quand même une forme d'angoisse à se livrer au public, on le disait. Et du coup, ça, c'est bien de recueillir, que les gens aient envie de nous accueillir chez eux, de nous voir, de nous entendre, ça.
Ça fait chaud au cœur.
Ouais, quand même.
On mettra les dates des concerts sur le site internet Par les temps qui courent, franceculture.fr. Merci beaucoup, Julia Lanoë.
Merci à vous.
À la prise de son ce soir, c'était Antoine Viossa, la réalisation Lise Combe. Un grand merci à Jeanne Aléos, Romain de Bec de Lièvre, Valentin Rémy, Marianne Chassor qui m'aide à penser et préparer cette émission tous les jours. Pouce levé de la part de Julia Lanoë. Toutes les informations sur franceculture.fr, donc à la page de Par les temps qui courent et pour le podcast aussi. Demain soir, rendez-vous à 21h et dans un instant, rendez-vous avec le journal.
Thank you.